On commence ce matin, Pierre-Yves, par les négociations dans le secteur public.
Oui, et c'est une histoire qui se répète depuis que je suis tout petit. Toujours la même affaire. Le gouvernement fait une offre qualitative, les syndicats sont fâchés, puis on arrive au juste milieu après quelques mois de négociations. Mais là, le gouvernement dit, écoute, on est en pandémie, on sort la vieille cassette, évidemment, de capacité de payer, puis là, on offre 5 % sur 3 ans, on va bonifier d'1 % si l'inflation monte. Finalement, comme syndiqué de l'État, en général, t'es condamné à négocier serré chaque fois pour que tes points de pourcentage sur 20 ans te donnent quelque chose de bien. Mais après ça, le secteur public est complexe. Parce que, par exemple, on t'offre un montant forfaitaire. Un montant forfaitaire, ça se répète pas année après année. C'est brillant du côté du gouvernement parce que tu fais un chèque une fois, ça paraît bien, mais de l'autre côté, c'est pas de la dépense qui s'accumule. L'autre point, c'est la valeur géographique. Le gouvernement a été un des rares employeurs qui t'offre une paye qui est la même que tu travailles à Gaspé, Montréal, Québec, Valleyfield, Repentigny, mais ton coût de la vie n'est pas le même. Donc, un commis comptable ou un concierge ne gagne pas les mêmes salaires dans le privé dépendant de la région. Mais le gouvernement a ce problème-là. Parce que pour certains, le salaire est déjà adéquat par rapport à la région. Pour d'autres, ça leur permet de vivre normalement. L'équité, c'est la même chose. Là, tu es dans l'équité interne. Ah, combien gagne un concierge, un commis, un prof au secondaire, un prof au cégep, un prof... Où tu commences, où tu finis dans ton analyse d'équité? Et quand tu donnes à un secteur, comme par exemple les préposés aux bénéficiaires qui, par problème d'attractivité, n'avaient pas un salaire qui permettait d'attirer du monde, tu as les autres secteurs qui disent « Vous avez donné X pourcentage à tel secteur, pourquoi pas nous? » Et là, c'est se battre pour dire « Ben, eux, ils avaient droit à un tapage salarial, pas vous. » Et après ça, tu as l'employé lui-même qui est habitué à certaines réalités du public qui n'existent pas dans le privé, mais qui coûtent cher. Congé de maladie qui se prennent même quand on n'est pas malade. Congé flottant, beaucoup de semaines de vacances, permanence, sécurité d'emploi, possibilité d'avoir le même emploi toute ta vie, d'arriver à la banque, négocier un prêt hypothécaire et te le faire prêter parce que ta job est garantie, ça vaut combien? Et l'autre affaire, c'est que ton régime de retraite est basé sur tes 5 meilleures années. Donc, il y a un calcul actuariel basé sur la collectivité du groupe. Mais quand tu y penses, tes 5 années de sortie vont être tes meilleures probablement.
Mais est-ce que ça ne vient pas aussi démontrer, si je mets ça en parallèle avec le fait qu'il y a pénurie, qu'on cherche des psychologues, qu'on cherche des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des profs. Tu sais, je comprends la liste des avantages, mais en même temps, il faut croire que ce n'est pas suffisant pour garder et attirer.
Ah, ça c'est vrai, mais l'autre point, c'est de la compréhension d'une rémunération globale. Il y a des gens qui comprennent que quand on dit, par exemple, un psychologue 50$ dans le public puis 100$ dans le privé, bien, le privé dit « Attends une minute, là, Pierre-Yves, on paye notre loyer, on paye nos assurances, on a un risque de ne pas avoir de clients, on paye nos vacances nous-mêmes. » Tu sais, quand tu regardes ton salaire à l'heure, c'est une erreur. C'est ça que je souligne souvent, c'est que souvent, un employé se compare à quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas la même réalité. Si tes flux monétaires sortent parce que tu as des assurances à même ta paye, ben, va-t'en dans le privé, tu vas payer des assurances après ta paye, mais tu vas la payer pareil, ton assurance. Et l'autre point intéressant, c'est quand tu parles d'attractivité, ça c'est bon, parce qu'on se dit, écoute, combien il faut donner au gouvernement pour attirer le meilleur monde? Mais va à l'envers aussi. Si tu as un emploi au gouvernement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes, que tu quittes pas? C'est parce que quand tu es à l'interne, tu pèses bien les avantages. Puis quand tu quittes, tu peux avoir certains avantages, mais ça prend une certaine indépendance.
Il y a des gens comme dans le domaine informatique, t'sais, ils ont-tu bien du monde compétent qui travaille au gouvernement parce que les salaires...
sont plus gros ailleurs.
Mettons, les meilleurs vont être dans le privé.
Ben oui, mais ça dépend toujours de ce que tu veux comme vie aussi. Il y a des gens qui sont pas faits pour prendre le stress du privé ou le stress de la méga supra-performance. Ouais. Mais tu as raison, le facteur d'attractivité, c'est le problème du privé puis du public. C'est que si tu as une concurrence, un ou l'autre, tu es perdant. Et ce qui est vraiment difficile, c'est de dire quel est le juste salaire. D'ailleurs, quand j'ai un prof qui me dit « Moi, je lâche tout, je m'en vais me partir une business », je dis « Oups, là, viens ici, on va jaser 5 minutes. » Puis là, on s'assoit à table. On parle de RRQ, taxes d'affaires, de risque de client, de risque de crédit. Puis là, la personne prend un café, puis tu dis « Sais-tu quoi? Il me reste 6 ans.
» Parle-moi donc du salaire minimum pour un kid de 14-15 ans.
Oui, hey, là, Paul, j'ai une stratégie.
Vas-y.
En fait, j'ai 2 stratégies. Pour les parents qui ont un enfant de 12 ans et pour les parents qui ont un enfant de 14 ans. Si vous avez un enfant de 12 ans, écoutez bien ça. Allez à la banque. Ouvrez un régime enregistré d'épargne études. Mettez 100$ par année pendant 4 ans. Là, vous dites pourquoi? Si vous n'avez pas encore ouvert de AEE, Pour que votre enfant puisse y contribuer à 16 puis 17 ans, il faut que le régime soit ouvert au moins 4 ans avant avec 100$ par année. Ou ben donc, si votre enfant a 14 ou 15 ans, vous devez aller mettre un 2000$ dans le régime avant qu'il ait 16 ans. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est un double résultat. Votre enfant, quand il va arriver chez McDo, ou peu importe, la pataterie du coin ou Lifeguard, et là, il va commencer à gagner des sous. Puis là, tu lui dis, « Papa et maman ont fait quelque chose. » On a ouvert une espèce de compte que si toi, tu mets ta paye dedans, tu vas avoir 30 % de plus dans un an ou deux quand tu vas être aux études postsecondaires, plus le rendement, puis le gouvernement va t'avoir donné quelque chose. Mais pour ça, il fallait que papa et maman ouvrent le compte avant que tu sois en âge de gagner des revenus. Nous, on l'a fait. Donc, vous avez deux stratégies. Soit mettre 400$ sur 4 ans, donc 100$ par année de 12 à 15 ans, ou mettre 2000$ d'un coup avant les 16 ans, parce que votre enfant a 15 ans et 3 quarts. Et là, quand votre enfant commence à gagner du revenu, tu lui dis « Ah ouais, tu veux dépenser ta paye? » Bien, imagine-toi, tu as un coût de renonciation, parce que si tu le places dans le compte que papa et maman ont ouvert, tu as 30 % de plus. Donc, ton 13-14$ de l'heure devient 13-14$ fois 1,3 dans un an. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Hein, Kevin? Hein, Cynthia? Ton char, il est moins attirant, là? Ben, donc, en fait, c'est de la manipulation positive
oui,
de parents.
Oui, ça sent la manipulation au total. Là.
Oui, mais ce qui est bon, Paul, c'est que tu dis, tu as deux stratégies. Si ton enfant a 12 ans, tu as 4 ans pour mettre 100$ par année. Puis si ton enfant va avoir 16 ans, cours à la banque, va ouvrir, mets un petit 2000$ de toi, puis ton 2000$, il te revient. Hein? Puis tu as juste à le laisser là pendant 2 ans. En tout cas, c'est des calculs de dernière minute puis de la manipulation positive pour adolescents.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée. 7h22.